dans un refuge, en montagne, après une journée de marche. Je partage une fondue savoyarde avec des randonneurs autour d'une grande table en chêne. Par chance, quelques-uns ont sorti leurs instruments et emplissent l'espace de sons irlandais. La gaieté est au rendez-vous après une ascension plaisante mais rude. Je m'attends à continuer le partage, à vivre avec ces gens ce moment unique et furtif que peut représenter un coucher de soleil.
Génial! Ça faisait longtemps, hein?
Ah, bah ils répondent pas, je leur envoie des...
Lorsque l'un d'eux sort son portable de sa poche, suivi par tous les autres. Déçu par la triste tournure que prend cette soirée festive et joviale, je m'éloigne du groupe pour admirer le coucher de soleil et apprécier le silence des montagnes. Je m'approche du seul randonneur qui n'a pas sorti son portable et qui admire le paysage.
Bah alors, vous n'envoyez pas des beaux selfies de vous avec le coucher de soleil derrière vous ?
Bah
vous n'êtes pas très connecté, hein ?
Écoutez, moi, je préfère admirer les paysages comme ça, tranquillement.
Bah, vous n'êtes pas très branchouille, quand même. Regardez, ils sont tous branchouilles, là.
Le problème, c'est que plus on est branché, moins on est là. Moi, je préfère être là que de raconter à d'autres que j'étais là.
C'est vrai. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une aquarelle de Sam Ivel. Une aquarelle où on voit un montagnard qui est assis au milieu d'un cirque de montagne. C'est la nuit, il est seul avec la lune. C'est un peu comme si la montagne et la lune avaient décidé de lui offrir un cadeau. Alors évidemment, il a envie de partager ce beau moment avec quelqu'un. Et il y a une bulle où il y a écrit « ça serait tellement plus beau à deux ». Moi, je trouve ça normal de vouloir partager un coucher de soleil, mais le faire avec un portable, vraiment. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, j'arrive pas à expliquer pourquoi je trouve ça bizarre.
Moi, vous voyez, je trouve un tout petit peu dommage de s'absenter de la situation pour essayer de communiquer à l'autre. À vrai dire, il y a un truc un peu tordu là-dedans. C'est comme si l'autre, en le voyant, il certifiait que c'est vrai ce que je vois. Voyez, c'est comme si je ne pouvais pas me souffrir à moi-même d'être là, dans un moment éphémère, dans lequel tout ce qui doit rester comme dans une trace dans moi. C'est-à-dire, c'est au cœur de l'éphémère que niche l'irréversible. Alors, s'il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé à ce moment-là, il va rester en moi. Si moi je me presse pour faire partager l'image plate du coucher de soleil, tout est perdu.
Vous avez l'air d'avoir une bonne analyse du sujet. Vous devriez écrire des bouquins.
Ah bah justement, c'est une des choses que j'ai fait dans ma vie. J'écris des bouquins, oui. Je m'appelle Miguel Benassayag. Peut-être parmi tous les bouquins que j'écris, vous avez vu dans une librairie ou une autre.
Moi, c'est Jean-Baptiste. Enchanté.
Enchanté.
Non, j'ai pas vu, mais est-ce que vous pourriez me donner des exemples parce que j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit.
Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que l'instant... parfois, un instant précis, pour la montre, contient une sorte d'éternité. Le temps, il n'est pas simplement linéaire, une minute, une seconde, une seconde, une seconde. Il y a aussi une profondeur du temps. Quand on est dans le temps de la montre, on loupe la profondeur du temps. Alors, par exemple, quand je me laisse aller à percevoir, à être là dans un coucher de soleil, à participer du coucher de soleil, il y a là quelque chose d'éphémère, certes, mais irréversible. C'est-à-dire qu'il y aura eu lieu quelque chose. Il y aura eu lieu. Si moi je sors mon cacophone et je me mets à photographier et je l'envoie à ma tante Duviche tout de suite la photo, eh bien c'est sûr que ces côtés profondeur dans lesquels je dois me fondre dans les paysages pour y participer sera perdu.
Et c'est fou quand même, parce que vous les voyez tous là, et ils sont tous les yeux rivés sur leur portable, alors qu'il y a un super coucher de soleil. Effectivement, il rate quelque chose. En tout cas, il rate une dimension.
Et plusieurs, oui. Regardez même celui-là, là, en train de râler parce qu'il appelle et on ne lui répond pas tout de suite. Vous voyez, il veut que ce soit tout de suite, tout de suite.
C'est vrai. Mais quelque part, moi, je ne vaux pas mieux. Hein.
Pourquoi vous dites ça?
En fait, j'ai repris contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Un ami chanteur en Angleterre. Et quand je lui envoie un message, c'est vrai qu'il me répond une fois sur trois. J'ai une amie aussi que j'ai retrouvée par hasard sur le net. Alors, on a prévu de se revoir en Cornouailles, là où elle habite. Mais quand je lui envoie un message sur WhatsApp, ben, elle répond quasiment jamais. Ou alors, elle répond une semaine après. Et encore, hein, avec des phrases un peu superficielles. Des fois, je me demande si elle a vraiment envie que j'aille la revoir.
Oui, mais justement, vous voyez, c'est-à-dire demander, tu es toujours vivante, comme ça, comme une information. Non, de dire, voilà, envoie-moi un SMS pour me dire que tu es vivant. Ça donne quoi comme information? Ça donne quoi comme contact? Savoir que l'autre, il est juste vivant. C'est comme si on était là en train de se surveiller les uns aux autres, voir si on est là, si on n'est pas là.
Et alors, je ne la surveille pas.
Mais ça fait un effet de surveillance. Ça fait comme juste envoie-moi un signal que tu es là. Mais ça ne fait pas être avec l'autre. On ne se renseigne pas si l'autre veut nous accueillir ou pas. Parce qu'accueillir quelqu'un, vouloir s'approcher à quelqu'un d'autre, ça demande une certaine prudence, une certaine timidité. C'est-à-dire, ce n'est pas évident, vous voyez.
Qui ne transparaît pas à travers un SMS.
Absolument. Vous vous êtes approché de moi pour parler. Vous n'avez pas agi comme un coup de poing d'SMS. Vous vous êtes approché délicatement, en mesurant, parce qu'il y a un espace physique autour duquel c'est encore nous. Vous voyez, ça arrive dans les métros. Quand on est dans les métros à 18h, on se rend compte que celui qui est collé à nous, à vrai dire, il est dans notre espace physique. Alors c'est pour ça qu'on ferme les yeux, on regarde en haut, parce qu'on doit supporter ça. On doit supporter cette sorte de promiscuité qui vraiment nous fait mal. Alors, quand on s'approche comme ça, on s'approche éthologiquement, non, comme la psychologie animale. Parce qu'on sait quand même qu'il y a l'autre, et l'autre a un espace autour de lui qu'il faut approcher délicatement, il faut faire des petits gestes pour voir si l'autre nous invite à entrer dans son espace. L'SMS est comme une agression envers l'autre. Je t'appelle, tu réponds, tu réponds pas. Moi, je vois par exemple comment les gens, quand ils connaissent quelqu'un, dans les mécanismes, les situations de séduction, par exemple, tout est perverti. Parce que si l'autre ne me répond pas vite fait, qu'est-ce que ça signifie? Alors, tout est perdu de la séduction, de l'amitié, de l'approche, parce qu'il est perdu le temps de l'approche.
Bah, alors c'est exactement le principe des applications de rencontres, comme Tinder ou je ne sais plus quoi.
Tinder et je ne sais pas quoi, comme vous dites, sont tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes pour éviter la rencontre. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est se consommer. Non, tu es consommable, je suis consommable. Regardez comment je suis consommable. Celle-là ou celui-là n'est pas consommable, n'est-ce pas? Et combien tu consommes? Et quand on est en train de consommer un, on dit, merde, je suis en train de perdre mon temps, je pourrais consommer quelqu'un d'autre. Tous ces dispositifs-là, ces applications-là, sont faits comme si c'était fait exprès, ça ne serait pas mieux fait, pour éviter que les gens se rencontrent. On ne peut pas se rencontrer comme ça, d'un isolé à un isolé. Il faut tout un tissu. Et ce tissu prend du temps, c'est une construction.
Mais quand même, les réseaux sociaux, ils ont quand même leur avantage. Même si moi, je ne me sens vraiment pas à l'aise dans les réseaux sociaux, j'ai quand même retrouvé des amis d'il y a 30 ans grâce à ça, finalement.
Personnellement, je trouve quand même que si je me demande qu'est-ce qui devient ma première fiancée, Sarah, en Argentine, je préfère que ça me prenne du temps, que je dois écrire à Bernardo, que je sais qu'il avait vu quelque temps, qu'il écrit à quelqu'un d'autre, et que tout à coup, comme ça, en rebondissant d'un côté à l'autre, quelque chose arrive à Sarah qui lui dit « Apparemment, Miguel te cherche. »
Il y a de la magie, quoi.
Il y a de la magie. Quand il y a une rencontre, il y a de la magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça et Sarah n'a pas voulu me répondre. Elle n'a pas voulu. Mais moi, je ne l'ai pas agressée. Je l'ai fait savoir que 40 ans plus tard, elle continue à exister pour moi et que je pense à elle. Et ça lui est arrivé juste ça. Il n'est pas arrivé le coup de poing, tu es là, je suis là. Tout ce temps-là où je la cherchais, bah, elle était encore avec moi. Ces liens-là existaient sous ces formes-là. Son refus de me répondre fait partie de ça, non ? Alors, c'est quand même toutes des dimensions d'une délicatesse, d'une fragilité, comme ça, de l'existence, qui se perd au nom d'une efficacité qui, en plus, et surtout, loupe la cible. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on continue à dire des choses vraies dedans ? Parce que là, il fait un peu fresquet. Hein ?
L'air de la montagne, ça ne pardonne pas le soir. En plus, à l'intérieur, ils ont mis du jazz super cool. C'est quoi, c'est la radio ?
Ah oui, je crois, oui. La radio, ça, c'est avantage. Il n'y a pas d'image.
Je suis d'accord. Un bon feu de bois, du jazz en fond sonore, une odeur de fondue savoyarde. Hein. Que demander de plus ?
Je vous disais tantôt que ceci ressemble à une sorte de présence particulière, qui est une présence communicationnelle. Une présence un peu loupée, pour le dire comme ça.
Oui.
Vous savez, la présence communicationnelle, pour le dire comme ça, c'est comme une présence d'office, quoi. C'est-à-dire, je suis là, je me manifeste à travers un SMS, à travers une photo, mais ce n'est pas l'épaisseur de la situation. C'est-à-dire, on n'est pas là, tous les deux. Vous savez, la présence des corps est toujours inquiétante. La présence des corps est toujours inquiétante.
Pourquoi inquiétante ?
Inquiétante, pas dans le mauvais sens. Inquiétante dans le sens que ça stimule, ça convoque, ça interroge, n'est-ce pas ?
Ah oui.
Et les corps, c'est comme ça. Les corps, c'est du vivant non transparent. Oui. Contrairement à cette présence communicationnelle dans laquelle tout semble être dit.
Alors c'est comme s'il y avait la présence communicationnelle contre la présence situationnelle, la présence qui prend en compte la situation.
La présence dans la situation, c'est-à-dire qu'on se rend présent à la situation. Comme ce qu'on disait tantôt dehors sur le coucher, par rapport au coucher de soleil.
Sur la terrasse.
Se rendre présent à cette situation-là exige qu'on soit là, qu'on soit en fusion avec la situation.
Là, en l'occurrence, dehors, ils sont pas du tout en fusion avec le coucher de soleil. Ils sont
non.
Tous sur leur portable.
Non, ils sont tous en train de mettre entre eux et la situation, la machine, pour éviter l'angoisse de la présence. La présence a un certain niveau d'angoisse. L'angoisse, ce n'est pas toujours négatif.
Négatif, hein. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une angoisse existentielle. Et alors, le portable permet comme ça de se protéger, mais en pure perte. Vous voyez, quelqu'un me racontait que le jour où... Attendez.
Oui.
Vous pouvez augmenter le volume de la radio, s'il vous plaît ?
Oui.
Didier Lockwood, virtuose du violon, s'est éteint hier soir à l'âge de 62 ans, terrassé par une crise cardiaque.
Eh bien, encore un grand qui s'en va.
On ne peut pas parler uniquement du son. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'une panne d'essence.
Eh oui.
À tous les niveaux, je dois dire que au niveau de la manière de se nourrir, par exemple, on est dans ce qu'on appelle la malbouffe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le son, pour la musique, on est un peu aussi, parfois. Et comment on la diffuse ? Et comment on se sert du son ? On est un peu dans une malbouffe aussi.
Eh oui.
Je crois qu'il y a...
Des malsons.
On connaît la même chose aussi pour le toucher. Aujourd'hui, on ne touche plus pratiquement que nos écrans tactiles. Et on a le bout du monde à portée de la main.
Oui, sauf
et quand on se rencontre dans la rue, on ne se sert plus,
absolument.
Plus la main. Chacun est isolé avec son smartphone, avec le son.
Comme des autistes.
La vue.
C'est clair.
Et le toucher. Donc je crois qu'aujourd'hui, je sens ça comme une tentative de nous ôter nos sens.
Absolument.
Et ce qu'ils ont de plus important au monde, c'est-à-dire la relation au monde
c'est
et la
sujet.
Relation entre chacun d'entre nous.
C'est tout à fait dans le sujet.
Des êtres uniques et de qui Chacun, tout enfant, doit apprendre les uns des autres. Et on l'apprend en se parlant, en communiquant, en se touchant, en vibrant ensemble. Donc je pense que tout ça tient à une écologie. Une écologie, oui, il y a une écologie du son, il y a une écologie de la nature. Aujourd'hui, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne touche plus, on ne goûte plus.
Et oui.
En tout cas, on ne goûte pas comme on devrait goûter. Donc, je pense que cette action qui est menée depuis pas mal de temps déjà par M. Huguenet est essentielle. Parce qu'elle va nous permettre de rentrer plus profondément, peut-être, à nouveau dans les choses. Et le monde est tellement merveilleux.
Oui, il faut renouer avec la vie.
On nous le banalise.
Ben oui.
On nous le compresse.
Oui, oui.
On nous compresse notre regard, on nous compresse tous ses sens.
Il nous compresse la vie. Quoi.
La dynamique est absente de.
Il l'exprime bien aussi, ça.
Oui.
Et en tout cas, je sais que pour moi, la musique, c'est mon grand moyen de communication. Et j'improvise, c'est mon grand moyen de communication. C'est-à-dire traiter du moment présent.
Et oui, l'improvisation, c'est ça, c'est les moments présents.
Et j'espère que, on va se réunir tous pour essayer d'échapper un peu à ce rouleau compresseur que les dérives de notre société est en train de provoquer au niveau de l'humanité.
Ouais,
et on en voit les premiers résultats. Mais ça fait très plaisir de pouvoir vous voir si nombreux et de voir qu'autant de pays prennent conscience, puisque en fait, ce n'est qu'une question de conscience. Alors, le combat continue et je crois que c'est le combat simple.
Oui, pour, il est très optimiste parce que je ne sais pas vraiment s'il y a tellement une prise de conscience. Vous savez, tous ces appareils, tout ce monde communicationnel, il est tellement ludique, tellement séduisant que les gens se laissent capturer entièrement. C'est-à-dire, c'est vraiment une mauvaise rencontre de l'humanité avec ces machines.
Oui.
Je ne nie pas l'utilité qu'il peut avoir. C'est-à-dire, effectivement, vous savez, toujours, il vous disait au départ du portable, il disait, imaginez-vous pour les pompiers, imaginez-vous pour les médecins urgentistes.
Ah ben ça on ne peut pas le nier. Ça, c'est,
bien entendu.
C'est utile.
Il ne s'agit pas d'être technophobe, mais il s'agit de voir que cette technologie a colonisé les vivants et que nous, on est fascinés. On se laisse coloniser joyeusement, quoi. Et
oui.
Ce qu'il vient de dire, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, ce monde, comme on dirait l'autre, de plus en plus unidimensionnel.
Oui.
C'est un monde dans lequel on évite les paysages, on évite les contextes.
On évite toutes les autres dimensions,
oui.
En fait.
Oui.
C'est ça.
Cette horreur du transhumanisme véhicule dès que la vie soit une vie sans corps.
Oui.
Parce que le corps fout le bordel, pour
ça
dire comme
le bordel,
ça.
Oui.
C'est-à-dire, le corps, la vie, ne peut pas être disciplinée.
Et puis, c'est imparfait.
C'est imparfait.
Puisque c'est éphémère.
Absolument. C'est imparfait. Vous savez, la grosse différence entre la vie artificielle, ce qu'on appelle la vie artificielle,
oui,
et la vie biologique, c'est que la vie biologique, merde, à un moment donné,
oui,
ça faille. Et, mais ces failles-là...
Ça fait partie de la vie.
Voilà, ce n'est pas un dysfonctionnement.
Non.
Un artefact dysfonctionne. Nous, de temps en temps, malgré toute la logique, malgré qu'on savait qu'il fallait faire ci et ça, on fait autrement. C'est ça qui fait l'épaisseur de la vie.
C'est l'imperfection qui fait la perfection.
Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a des cas dans lesquels c'est plus flagrant encore cet écrasement, comme il vient de le dire, des dimensions de la vie.
Oui.
C'est par exemple avec les personnes très âgées qui sont déjà un tout petit peu absents, comme ça, justement de la communication.
Oui, surtout dans les maisons de retraite.
Dans les maisons de retraite. Alors, tout à coup, toute cette nouvelle technologie permet que les gens abandonnent, sans trop culpabiliser leurs aînés, en disant « je vois une vidéo de comme les petits jouent au football, je l'envoie un SMS ». Mais le problème, c'est que...
C'est un clone de la vie, quoi, pour ces gens âgés.
C'est absolument une pure perte. C'est-à-dire que toute la partie animale, vivant, n'est-ce pas, toute cette partie dans laquelle...
Les odeurs, les autres sens.
Absolument. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les dialogues est un double peu comme les pucetages des singes, non ? On dialogue pour être avec l'autre, mm-hmm. peu importe ce qu'on dit. Mm-hmm. Non, c'est par exemple quand on joue aux cartes, quand on joue à un jeu de société. Si on regarde les jeux de société, c'est vachement ennuyant. Ouais. Quoi. C'est vachement ennuyant. Mais pourquoi on passe un bon moment ?
Voilà. Parce que c'est l'interaction.
C'est comme les pucetages. Les singes se pucettent l'un à l'autre. C'est une façon d'être ensemble. Non ouais. Alors quand on envoie à mamie une vidéo du petit Arthur qui fait goal.
C'est malhonnête, finalement.
C'est malhonnête, absolument. Parce que ce qu'elle a besoin, mamie, c'est que l'autre soit assis là, à côté.
Même si on ne parle pas.
Et même s'il ne se rappelle même pas les noms du petit-fils, le corps avec le corps renvoie une mémoire corporelle qui marque une présence.
Oui. Je ressens beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ressentent ces choses-là, mais qui n'arrivent pas à dire pourquoi. C'est pas facile à exprimer tout ça.
Non. C'est important de trouver les mots pour identifier ce qui est en train de nous arriver comme société.
Oui.
Vous voyez, par exemple, le téléphone portable a opéré une mutation biologique majeure. Notre espèce, qui est une espèce qui normalement n'est pas en communication permanente, tout à coup passe à être une espèce qui est la possibilité de communication permanente.
Oui.
Alors, effectivement, c'est une mutation biologique, qui n'est pas anatomique, mais qui, d'un point de vue du fonctionnement, d'un point de vue physiologique, est une mutation. C'est-à-dire que ça a changé notre espèce. Alors, je ne dis pas que ce soit ni bien ni mal, mais déjà, ce que j'ai dit, il faut mettre des mots là-dessus. Il faut penser au changement. Il ne faut pas se l'avaler tout cru, juste en voyant le côté ludique et utilitaire de la chose. On est en train de vivre des mutations très, très importantes, et il est hyper urgent de prendre le temps d'essayer de voir un peu ce qui est en train de se passer.
D'analyser et de verbaliser, précisément.
Oui.
Mais ce n'est pas facile.
Non, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à tout communicant. Non, Rousseau, il disait, avec le progrès, le problème, c'est qu'on voit ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. Non ? Là, on commence petit à petit à voir ce qu'on perd. Là, avec la Covid, avec les confinements, on a vu quand même que la communication virtuelle ne pouvait pas suppléer la présence.
C'est sûr.
Les gens déprimés, les gens se sentaient mal. Et pourquoi ? S'ils pouvaient être en rapport avec le monde entier. Eh bien non. Il fallait une personne à sentir, à toucher. Le monde entier ne suffisait pas.
Oui.
Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous me parliez de votre ami que vous ne voyez pas depuis 30 ans.
Oui.
Comment la contacter ? C'est ce que je vous disais aussi par rapport à Sarah, non ?
Oui.
Comment la contacter, votre ami ? Eh bien, contacter votre ami, retrouver votre ami, c'est certainement pas la fiction de quelques SMS échangés. Retrouver quelqu'un, c'est tout à coup être dans le même... habitation, dans les mêmes lieux, être là, se regarder, sentir comme ça, sentir que c'est le même mais c'est un autre, parce que en quoi il est le même depuis 30 ans ? Ah, ben c'est un sacré truc. C'est le même mais je ne le reconnais pas, il est plus mince, plus gros, il n'a plus de cheveux, il a des cheveux, et il a des rides, il n'a pas de rides, c'est-à-dire, et pourtant c'est le même. Et en quoi c'est le même ? En tant que on m'envoie un SMS et il dit « Salut, je suis Sophie, la même. » Il dit « En quoi tu es la même ?» Et si sur l'SMS, c'est la même.
Oui, ben oui.
En présence, mais ça, en quoi l'autre est le même ? Et après, comme dans un miroir, mais en quoi moi je suis le même ? Où est passé le Miguel qui connaissait cette Sarah ? Où est passé vous qui connaissez cette femme, cette amie ? Où nous sommes passés.
Mais c'est ça qui est très excitant, justement, c'est de retrouver tous ces gens-là, de voir certains ou certaines que j'ai connues enfant, de voir ce qui est resté d'enfant dans ce corps devenu adulte, etc.
Et même la tristesse, souvent, de voir que peut-être l'autre a tout à fait oublié celui qu'il était, qu'il a trop fonctionné et qu'il n'a pas assez existé. Pour rester un peu fidèle à l'enfant qu'on était, aux jeunes qu'on était, aux amours qu'on a eus, aux passions qu'on a eues. Il faut pouvoir continuer à exister. Et tout à coup, on trouve quelqu'un, et oui, c'est le même, même peut-être il a peu changé physiquement, et, mais ce n'est plus le même parce qu'il s'est oublié. Il n'est plus là. Et ça aussi, c'est...
Ah, c'est le danger.
C'est le danger aussi, mais ces dangers, on ne les voit que quand on prend les risques de la présence.
Oui, il faut l'accepter.
Il faut l'accepter, absolument. C'est ce qu'on essaye d'éviter à travers les SMS, la communication prophylactique.
Bon, en conclusion, il faut que j'aille en cornouaille, quoi.
On va l'aider si tu veux, mais non, là, c'est...
Moi, je pense qu'il faut que vous ayez un cornouaille, absolument.
Sais bien, à Tokyo, oui, ouais. On a déjà mis 400.
Que vous la preniez dans les bras, que vous regardiez, que vous vous étonniez. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez, s'il vous plaît, aller téléphoner ailleurs.
Oui, c'est bon, ça va. Non, c'est pas à toi que je dis ça. Il y a des gugus à côté, là, qui... C'est... Vous permettez, là, j'ai le droit de vivre, là.
Oui, mais nous aussi.
Bon, j'y vais. Tu continues, tu fais ce que je te dis, tu remets les 400, tu vois... Avec c'est
autres, un seul con, il peut emmerder des milliers oui. des gens pacifiques.
Par contre, une seule personne pacifique ne peut pas...
Emmerder des milliers de cons, voilà, malheureusement. À propos de ce mec-là, non, justement, c'est drôle parce que... Bon, d'abord, c'est bien d'être un chieur qui empêcheur de tourner en rond.
Oui, revendique.
C'est quand même bien d'être un empêcheur de tourner en rond parce que lui, il est tellement capturé par son business qu'il n'est plus là, il n'est plus nulle part, il n'existe plus, quoi.
Oui.
Alors, c'est drôle parce que lui, il veut qu'on sache que c'est un homme d'affaires. Vous savez, c'est comme un tout petit peu ce qu'on appelle...
Oui, c'est un peu ça, oui.
La carte de visite claironnée. Le mec, il veut... Vous voyez, il veut qu'on le voit d'un certain point de vue. Il veut nous imposer un regard sur lui. Il ne veut pas être un petit gros, un peu barbu, qu'il a l'air un peu con. Non. Il veut qu'on sache que lui, attention, monsieur,
c'est
il parle...
C'est un monsieur important.
C'est un monsieur important. Ouais. Alors, il claironne sa carte de visite. Des millions d'euros, voyager en avion. Et nous, voilà, qui on est des empêcheurs de tourner en rond, qui avons à peine un vélo loué, effectivement, on n'a qu'à l'admirer, n'est-ce pas? C'est un peu une façon de se protéger, justement encore, contre cette angoisse d'exister, d'être là, n'est-ce pas? De dire,
oui,
je vous exige que vous me regardez comme ça. C'est vite la rencontre. C'est vite la rencontre.
Oui, et puis ça ne nous donne pas le droit de le regarder autrement.
Absolument. C'est un tout petit peu comme dans les séances de psychothérapie, de psychanalyse, que c'est mon métier. Hein. Je suis philosophe et chercheur, mais pour gagner mes raviolis, je continue à faire de la clinique. Non?
D'accord.
Et alors, dans la séance, souvent, le patient, il a besoin de vous raconter sa vie, de se déverser. Non? Comme si tout à coup, en se déversant, il mettait quelque part... ce qui est éphémère, ce qui est dans le devenir, il les mettait dans une caisse de sécurité, non? Et alors, justement, tout le travail psy, quand ça marche, c'est d'aider l'autre à assumer cette fragilité, ce devenir, ces changements, non? Cette idée de qu'on est les mêmes dans la mesure qu'on accepte de changer.
Je ne sais pas du tout comment réagir. C'est un peu comme quand on est dans l'ascenseur avec d'autres personnes, hein, vous le disiez, enfin, pour le train. Hein. On doit faire semblant de regarder au loin parce qu'il y a la promiscuité. Et du coup, pour éviter la gêne, on doit faire semblant de regarder au loin. Et là, c'est pareil. Là, je me sens obligé de faire comme si je n'entendais pas sa conversation. Bon, alors que clairement, il nous empêche de discuter.
Hein. Il nous capture. On se sent violenté parce qu'il nous capture. C'est comme dans les théâtres. Oui. C'est-à-dire, dans les théâtres, on a une écoute capturée.
Oui.
C'est-à-dire que ce que l'autre est en train de dire sur scène nous capture. Nous faisons partie du tout. Quand le grossier personnage parle au téléphone portable en criant, aussi, il tente de nous capturer pour qu'on soit son public, pour que lui-même il puisse se voir vivre.
Ah oui, c'est ça. C'est ça que je ressens. C'est ça qui me mettait mal à l'aise. Mais j'aurais jamais trouvé les mots pour le dire.
Les mots pour le dire, c'était le nom d'un roman qui parlait de la psychanalyse. Il faut trouver les mots pour le dire tout en sachant que les mots n'arrivent jamais à tout dire. Il faut avoir non, ou heureusement, il faut avoir une certaine humilité. Mais vous voyez, pour plus précis que ce soit quelque chose qu'on dit, plus c'est précis, dans la mesure où, justement, n'essaie pas de remplir l'ineffable, le non-disible. C'est-à-dire qu'on est très précis quand on permet l'émergence du non-disible, n'est-ce pas ?
Oui.
Et alors, cette émergence du non-disible ordonne la poésie, mais aussi la science, ordonne les discours, et c'est le contraire de la communication par SMS dans laquelle ce qui est dit, et point. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de devenir. C'est comme Barthel, lui. Il dit, je préfère ne pas. On ne sait pas pourquoi il préfère ne pas. Mais il y a un « je préfère ne pas ». Et là, c'est le geste fondamental. Le geste fondamental, c'est ne pas remplir avec des simulacres cet ineffable-là. Alors, effectivement, quelqu'un qui dit « je ne sais pas comment le dire », ah ben, ce n'est pas fondamental. Il sait qu'il y a quelque chose.
Ah, ça, oui, ça, oui.
En tant que l'autre, qui croit qu'il peut tout dire par des SMS, par la communication, il ensevelit l'ineffable, les non-disibles qui ordonnent tous les dits.
Moi, je sens que c'est un peu une peur de la solitude. La solitude, elle est nécessaire quelque part. Mais j'ai l'impression que le portable, c'est l'arme suprême contre la solitude. Ils ont tous peur de la solitude, j'ai l'impression.
Si, ils ont peur de la solitude parce que la solitude signifie un certain rapport avec soi-même, d'intimité avec soi-même, mais pas de promiscuité avec soi-même. C'est-à-dire l'intimité avec soi-même, c'est comme un dialogue intérieur.
L'introspection.
Non ? L'introspection, c'est-à-dire un certain sas entre moi et le monde, les lieux où j'existe. La promiscuité, c'est quand je suis tout le temps en feedback. Or, il y a une solitude pleine comme il y a une solitude vide. La solitude vide est la solitude qui a besoin de communiquer.
Oui.
La solitude pleine est celle qui, de temps en temps, est en relation avec d'autres. Et parfois, il peut aussi avoir besoin d'une communication concrète, n'est-ce pas ? Et moi, je pense que, effectivement, tous ces appareils-là tendent à aplatir cette intimité avec soi-même vers une promiscuité avec soi-même. On est déversé vers l'extérieur en s'évidant de l'intérieur. La solitude, vous savez, comme vous le dites, me semble nécessaire. Il est absolument nécessaire d'apprendre à être seul pour pouvoir être avec l'autre, non parce qu'on a besoin de l'autre, mais parce qu'on a le désir, l'appétit oui. de l'autre.
Oui, oui, oui. J'ai rencontré un moine l'autre jour, Mathieu Ricard.
Ah, c'est un ami. Oui.
Ah, c'est un de vos amis.
Absolument, oui.
Ah, bah, c'est rigolo, le monde est petit.
Oui.
Il m'a donné un petit cours de méditation.
Oui.
Ça me fait penser à ça. Une solitude riche. C'est pas si simple, finalement, quand on débute la méditation.
Absolument.
On a peur de ça.
Si, parce qu'il y a une solitude sans soi, cette solitude des promiscuités. Une solitude dans laquelle on est tellement seul qu'on est sans soi. Et c'est très angoissant d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a pas cette structuration intérieure comme pour pouvoir être avec soi, non ? Quand il est seul mais sans soi. Alors, oui. Il a absolument besoin de l'autre. C'est comme un bébé tout petit. Le bébé tout petit, il n'a pas cette intériorité, il n'a pas cette couche profonde dans laquelle il habite. Il est en fusion avec sa maman, avec son papa, avec l'environnement. Or, les adultes, malheureusement, connaissent ce type de solitude sans soi, dans laquelle il faut l'autre, mais pas l'autre par appétit, pas l'autre par affinité élective, pas l'autre par amour. Non, il faut l'autre parce que tout seul, je ne suis pas viable.
Je ne suis pas existant.
Oui, je ne suis pas existant. Je ne peux pas exister tout seul. Et alors, effectivement, c'est-à-dire cette solitude sans soi, elle est très, très triste, mais toute cette communication comme ça, SMS, portable, réseau, malheureusement, font se développer cette attitude d'une solitude sans soi parce que pour développer cette intimité avec soi, il faut le temps, il faut apprendre à être seul. Et ce n'est seulement que quand j'ai appris à être seul que je peux être vraiment avec quelqu'un.
Oui, ah oui, oui, oui. Effectivement, en fait, les portables, les réseaux sociaux, etc. Ça unit les gens, mais ça unit des gens séparés en tant que séparés, quoi. Finalement.
Absolument. Ouais, ouais. Ça, c'est une phrase de Guy Debord qui disait oui. « Dans la société des spectacles, les séparés s'unissent, mais en tant que séparés. » C'est-à-dire qu'on reste séparés. On reste séparés, on est dans un lien, mais qui est un lien de fiction. Ce n'est pas un vrai lien.
Vous voyez, j'ai fait du Guy Debord sans le savoir.
Et vous voyez, c'est-à-dire là, on est déjà carrément comme Socrate. C'est-à-dire, j'ai un rapport maïeutique. Je vous aide à accoucher ce que vous savez.
Vous avez accouché de la parole d'autrui, comme disait Pierre Schaeffer.
Absolument. Et comme Socrate.
Et comme Socrate, avant. Je ressens un malaise que je n'arrive pas à expliquer non plus. Quand je vois dans mon entourage des gens qui s'émerveillent des nouveaux portables et qui les achètent, mais quitte à se ruiner. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est lobotomisation.
Oui, oui, c'est horrible, c'est horrible.
On s'éloigne complètement du réel, du créatif.
Oui, oui, oui. Moi, sincèrement, je vais vous dire, par exemple, quand tout à coup, je lis un texte écrit par Chuang Tse, qui était traduit, retraduit, transmis oralement, et que quand même, je le lis, et quelque chose me bouleverse, là, je suis émerveillé. Quand je peux appuyer sur un bouton et que s'allume mon Internet, je me dis, bon, l'artefact marche.
Oui, oui, oui.
C'est tout, ça marche, ça fonctionne. Ça m'émerveille l'existence. Le fonctionnement ne m'émerveille pas.
Je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites. Tiens, il y a des enfants qui rentrent là.
Oui, ça doit être des enfants des randonneurs.
Des randonneurs, oui. Oui, oui.
Regardez, il y a même... Bonjour les enfants.
Bonjour.
Allez-y, vous pouvez passer. Assis, Toby, assis. Toby, viens, 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 viens. Assis là. Assis. Toby, assis, voilà. Tu viens les chercher, Amanda?
Mais moi, je peux pas le porter jusqu'à...
Non, 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 mais tu les pousses.
Non, mais non, ça c'est pour moi, pas pour moi.
Bon, je vais les porter une minute.
Oui, oui, oui.
Wow, wow. Oh. Non.
Toby, stop, stop. Toby, hop. Allez, va chercher. Elle n'est pas belle. Allez, attrape-le.
Hey, oh, ça y est. Okay. Allez. On va aller laver les papates. Allez, viens, Amandita. Est-ce que vous connaissez la dame qui fait
l'étoile du jour tous les matins? Non, c'est sur quoi? À la radio?
Oui.
Non, je connais pas du tout. C'est quoi? C'est une émission pour les enfants?
Oui, oui, j'arrive. Non, en fait, elle raconte une histoire tous les matins. Oh, elle s'appelle Marion, la dame.
Je ferme les filles. Hein.
C'est vos filles, finalement, avec le chien, là?
Oui, 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 absolument. Ah, vous voyez, deux sont de mes filles et l'autre, c'est leur copine. C'est Amanda et Sarah Luna, sont mes deux filles. J'ai deux filles petites et une grande fille, oui.
Ah, mais alors vous allez tous dormir dans le refuge, là?
Absolument, hein. Elles ont bien marché aujourd'hui, les filles.
Elles ont bien marché.
Et les chiens,
le chien, bah, des Pyrénées.
Des Pyrénées, il est chez lui.
Il est chez lui, oui. Elle est marrante, là, il y a la petite, je ne sais pas comment elle s'appelle.
Amanda.
Amanda, celle qui m'a posé une question,
oui,
sur...
parce qu'elle écoute toujours une speakerine à la, oui, radio, qui raconte l'étoile du jour, je crois.
Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui,
voilà.
Oui. Vous savez à qui elle me fait penser?
Non.
Elle me fait penser à cette amie anglaise.
Celle que vous allez voir.
Oui, quand elle était jeune. Je l'ai connue. Elle a quel âge, votre fille?
Maintenant, elle a 10 ans.
Eh ben, elle avait exactement le même âge.
Vous voyez?
Pas timide du tout.
C'est parfait.
C'est rigolo, ça.
Elle vient bien illustrer la rencontre.
Voilà. Donc là, vos filles, elles sont dans les dortoirs derrière, là.
Voilà, il y a...
du chien, quoi.
Tout à fait. Bon. Ils ont réussi à avoir un dortoir dans lequel elles sont seules, toutes les trois, avec les chiens.
Alors, super.
C'est tranquille. Elles font des bouquins jusqu'au matin, mais quand même, elles ont l'énergie de marcher d'après.
Elles n'ont pas de portable, elles? Encore.
Ah non, non, elles ne sont pas des portables. Non, elles sont pas des portables.
Elles vivent, quoi.
Elles vivent, et en plus, c'est-à-dire, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas si difficile que ça de protéger nos enfants des écrans, vous voyez.
Ah oui.
Moi, par rapport à tout ce que j'ai travaillé, de la recherche en neurophysiologie, du cerveau, etc., je ne peux qu'admettre que mettre les enfants avant 3 ans devant des écrans, c'est très mauvais.
Non, mais
c'est très mauvais. Les deux petites... Ils ont pris le goût des livres, de lire, de dessiner, de jouer, bref, d'être là. Oui. C'est-à-dire que de temps en temps, ils regardent un dessin animé, surtout je le mets dessin animé en espagnol pour qu'ils pratiquent un peu l'espagnol. Mais elles aiment être avec des livres. La plus petite, qui est l'OCP, elle est ravie d'avoir appris à lire parce qu'elle disait « Oh, c'est nul de ne pas savoir lire », elle disait, non ? Et alors, ce rapport avec la matière, avec les livres, ce rapport dans lequel on n'est pas tout à fait passif devant un écran, mais qu'on existe, on vit, effectivement, c'est quelque chose que structure quelqu'un, oui, et qu'elle structure en le protégeant de cette ultra-passivité, qui est une passivité qui, socialement, va vers quelque chose de disciplinaire à la fois.
Oui.
Va vers quelque chose quand même...
De carcéral.
De carcéral, de déterminer les circuits, comment on bouge, à quelle heure on bouge, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas ?
Et alors, acheter le dernier portable.
Acheter et être fasciné par les derniers portables qui a des nouveaux, juste le nom, n'est-ce pas ? Mais qu'on a besoin. Même quand on voit, par exemple, des mômes, des jeunes de banlieue qui cassent une vitrine pour voler des portables. Quelque part, les systèmes rigolent. Parce que si ils désirent, c'est ce qu'il faut désirer, peut-être ils sont en train de les voler, mais ils sont déjà colonisés dans leur
oui,
tête.
Oui.
Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est lui qui peut l'acheter.
On n'a pas encore vu de jeunes qui cassaient les vitrines des librairies pour aller prendre des livres de poésie.
Absolument. Ou... Et la Bibliothèque nationale n'a pas des gardes mobiles à la porte pour protéger. Oui.
C'est bizarre. Tiens, c'est bizarre.
Quand même, non ? Et c'est-à-dire que c'est encore une phrase de Guy Debord qui disait « Dans la société du spectacle, faute de pouvoir trouver ce qu'on désire, on désire ce qu'on trouve. » C'est-à-dire qu'on nous discipline.
Oui.
On nous dit qu'est-ce qu'on doit désirer. Et là, le monde de la haute technologie, c'est fantastique là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est des circuits tout à fait disciplinaires. Les gens, avec leur côté ludique, sont en train de tous se comparer combien de pas ils font pour entrer au travail, combien, ces calculs permanents qui fait une société tout à fait comptable, représentable, comptable, non ?
Alors, je travaille dans une énorme boîte très connue. La moindre chose qu'on fait est tracée par des logiciels, du numérique, etc. Tout est tracé. Finalement, la part d'humain, la part de hasard, la part d'imperfection, cette imperfection qui fait la perfection, elle n'est plus là.
Vous imaginez qu'il y a quelques années... le bracelet électronique était considéré comme une punition pour un délinquant.
Ah ben là, avec les portables...
Aujourd'hui, tout le monde achète les bracelets électroniques et il désire avoir une puce sous-cutanée avec toutes les informations et avec des géolocalisations.
Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte vraiment ?
Ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie.
Voilà.
Mais ils le désirent. Mais vraiment, j'insiste, je suis sûr, vous devrez aller en Cornouaille et voir votre copine, être avec elle. Il doit y avoir bien des choses d'ailleurs que vous avez envie de faire là-bas, là où elle existe, où elle vit, en vous libérant de ces petits SMS.
Oui. Ouais, y a plein de choses. Déjà, j'ai envie de nager en mer de Cornouaille. Puis j'ai envie de retrouver les gens, tous les gens qui me sont chers, les gens chez qui je vivais. Et puis les musiciens aussi, avec qui je passais des nuits à faire de la batterie. J'ai envie de retrouver les odeurs de cette petite ville. J'ai envie de sentir la brise maritime sur mon visage.
Mais alors ?
Quoi alors ?
Alors, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Allez, vous devrez être déjà parti. Achetez votre billet pour Cornouaille.
Ah ben oui, mais je voudrais bien, mais avec les restrictions sanitaires, on ne peut plus faire depuis un an.
Mais vous écoutez les nouvelles des fois ?
Mais tous les matins, enfin sauf ce matin, hein, mais sinon oui, je le fais tous les matins pour savoir s'ils vont réouvrir les frontières.
Si vous aviez écouté les nouvelles ce matin, vous aurez appris que les frontières viennent d'être réouvertes.
Non, c'est une blague.
J'ai l'air de blaguer.
Non.
Vous ferez mieux d'aller tout de suite avant qu'ils décident de refermer les frontières. Vous savez, avec eux, on ne sait jamais.
Vous savez quoi ? Demain à l'aube, je serai déjà en train de descendre pour aller chercher mon billet. Pour la Cornouaille.
À bientôt, alors.
À bientôt.
Je quittais donc cet homme qui avait mis des mots précis sur mes sensations. Il m'avait transmis, lors de cet échange, le souci du poids des mots et de leur impact. Savoir mettre des mots sur un mal-être, c'est déjà le guérir à moitié. À l'école, on ne nous apprend pas à réfléchir. on ne nous apprend pas à acquérir les prérequis culturels pour comprendre précisément le monde, pour raisonner, pour s'exprimer. Ben oui, sinon, ça serait sans doute dangereux pour les gouvernements. Mieux vaut nous abrutir avec la télé-réalité, les infos anxiogènes. Je décidais d'aller dormir, cette fois à la Belle Étoile, enveloppé d'une bonne couverture, en goûtant pleinement ce moment, sans penser au tracas de la vie. Une fois de plus, je me réveille sans pouvoir atteindre ce moment magique si mystérieux. Sauf que là, je suis entouré de vaches qui paissent tranquillement, tandis que je me réveille un peu surpris. Surpris, mais heureux de partager ce moment de vie avec des êtres que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. Je réalise que je commence à apprécier pleinement les choses simples. Je commence à concevoir que je fais partie de la nature, que je n'en suis pas séparé. C'est l'aube d'un nouveau jour. Le soleil brille dans un ciel bleu clair, comme pour me dire bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, tu as quelque chose d'important à faire. On est avec toi. Je me lève en vitesse, le cœur enjoué, et je descends le sentier qui mène à la vallée, respirant à plein poumon cette renaissance du jour, ces sapins majestueux. Et je dis bonjour. Bonjour aux sapins, bonjour aux fleurs, aux marmottes. Bonjour à tout ce qui m'entoure.
Pour se reconnecter, chaque matin, dire bonjour, bonjour. Et ce bonjour réel, ressenti, permet de retisser un lien, un vrai lien.
Et pour commencer la journée, c'est assez extraordinaire. Je suis beaucoup plus présente pour moi-même, pour la vie. Et après, j'ouvre les volets grands et j'ai la nature en face de moi. Première grande respiration. C'était un moment de vie.
Ce moment de vie où tout reste à construire. Construire sa vie, lui donner un sens, s'aligner avec ses propres valeurs. Je vais enfin ouvrir les volets de mon enfance et respirer pleinement ce moment de vie où je me suis construit sur mes rêves. M'emplir le corps de ces sons, de ces odeurs, de ces sensations si longtemps oubliées. Retrouver Penzance, ses ruelles, ses pubs, sa promenade, son bord de mer, mais aussi retrouver Katie Max.
On trouve quelqu'un, c'est le même, même peut-être il a pu changer physiquement, mais ce n'est plus le même parce qu'il s'est oublié. Il n'est plus. Pour rester un peu fidèle à l'enfant qu'on était, aux jeunes qu'on était, et aux passions qu'on a eues, il faut pouvoir continuer à exister.
C'est vrai, le risque est là. Peut-être Katie a-t-elle oublié celle qu'elle était. Sans doute que son enfant intérieur a cessé d'exister. Le pub où je jouais n'existe sans doute plus. La grande rue qui habite mes rêves nocturnes depuis 30 ans. Sans doute que quelques travaux de modernisation ont tué l'image que j'en ai gardée.
C'est le danger aussi, mais ces dangers, on ne les voit que quand on prend les risques de la présence.
Effectivement, ce ne sont pas quelques pauvres SMS qui me l'apprendront. Je dois accepter le risque de la présence. Pourtant, quelque chose me pousse à prendre ce risque. C'est comme si mon enfance était personnifiée en la personne de Katie, comme si elle prenait corps dans ce lieu protégé, Penzance, loin de mon quotidien. Comme si mon enfance m'appelait à la retrouver, à me retrouver. J'ai l'espoir de ressusciter l'enfant que j'étais au contact de Katie, de Penzance, en espérant que ce que j'ai connu 30 ans plus tôt a continué à exister.
Eurostar, bonjour. Les restrictions sanitaires étant partiellement levées, la circulation des trains a repris. Il n'y a plus aucune exigence de test ou de quarantaine, ni de formulaire à remplir pour se rendre au Royaume-Uni. Cette annonce est valable pour tous les passagers, quel que soit leur statut vaccinal.